Bonsoir à toutes et à tous. Dernier week-end de liberté avant la mise sous cloche du pays, puisqu'il y aura une tolérance pour circuler partout en France jusqu'à lundi soir. Et ensuite, ce sera pour 3 semaines au moins télétravail aussi bien pour les parents que pour les enfants qui auront cours en visioconférence à partir de mardi, comme une impression de revivre le premier confinement, c'était il y a tout juste un an. Alors faut-il s'attendre à de grands embouteillages ce week-end sur les routes et dans les gares? Et puis avec quelle perspective sur l'épidémie, mais aussi sur le retour à un début de vie normale qu'a laissé entrevoir Emmanuel Macron pour la mi-mai, et ce alors que nombre de Français ne cachent plus leur désarroi face à ces mesures sanitaires qui n'en finissent plus. C'est le sujet de cette émission de C'est dans l'air, intitulée ce soir « Confinement, la grande fatigue ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Bouzou. Vous êtes économiste, directeur du fondateur du cabinet Asterès, donc une société d'analyse économique et de conseil. Et je rappelle que vous êtes l'auteur d'Homo Sanitas, Histoire et avenir de la santé, publié chez Ixo Éditions. Françoise Fressoz, vous êtes éditorialiste au journal Le Monde qui titre « École, télétravail, les parents en première ligne ». En visioconférence, on retrouve le professeur Philippe Amouyel, vous êtes épidémiologiste, professeur de santé publique, directeur général de la Fondation Alzheimer, et je rappelle que vous avez dirigé l'Institut Pasteur de Lille. Et enfin, on retrouve Géraldine Vosner, vous êtes journaliste au Point. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Géraldine, justement, on commence avec vous. Ce soir, là, il doit y avoir des bouchons pendant qu'on parle. On a l'impression de revenir il y a un an, vous savez, quand c'était le dernier week-end, juste avant le confinement. Sauf que là, on a acquis l'expérience. On sait qu'un confinement, ça peut durer longtemps et qu'il faut s'organiser avant de le vivre.
Alors oui, il faut le préparer. D'ailleurs, pour venir à mon bureau tout à l'heure, j'ai pris le périphérique et ça commençait effectivement déjà à bloquer. Vous vous souvenez qu'au moment du premier confinement, entre le 13 et le 20 mars, il y avait quand même quasiment 200 000 Parisiens qui avaient quitté la capitale, et Orange avait fait des calculs en géolocalisant les portables. 17% de la population du Grand Paris, en gros, était partie à la campagne. Alors, est-ce que ce sera la même chose cette fois-ci? Il y a évidemment un mouvement de population... c'est indubitable, mais ce sera sans doute pas d'une telle ampleur. On sent quand même que les Français aujourd'hui, ils n'ont pas envie de se cacher ou de se confiner, ils ont envie de vivre. La problématique aujourd'hui, elle est celle des 12 millions, un petit peu plus, 12 millions d'élèves dont on sait qu'ils vont devoir télétravailler. Non, ça ne s'est pas très bien passé quand les parents, au même moment, devaient télétravailler dans les mêmes appartements. Donc c'est vrai que la latitude laissée aux parents de pouvoir se déplacer ce week-end pour simplement amener les enfants vers un lieu de garde, les grands-parents ou de la famille, va être bien sûr utilisée.
Alors, Françoise Fressoz, on parle de revivre ce qu'on avait vécu il y a un an, et les Français sont plutôt bonnes pattes. Sondage Backbone pour France Info, 7 Français sur 10 approuvent les mesures, mais, alors c'est là où c'est plus complexe, 46% ne comptent pas les respecter.
Oui, mais je trouve que ça donne à peu près l'état d'esprit de la population. C'est-à-dire qu'au fond, je pense que les comparaisons internationales et ce que vivent aussi les autres pays montrent qu'on a tous affaire à une troisième vague et qu'il faut prendre des mesures supplémentaires, complémentaires. Mais je pense que collectivement, on était incapable de revivre le confinement de mars 2020. Donc il y a au fond un peu la tolérance, c'est-à-dire le président de la République en a appelé à la responsabilité de chacun. Et en fait, chacun va, je pense, ajuster en fonction un peu de sa capacité de résistance, parce que, regardez, il n'y a pas d'attestation, contrairement à la dernière fois, c'est-à-dire qu'aux alentours de 10 km, vous pouvez quand même sortir. Donc, ce n'est pas exactement le même exercice. Ce que je trouve, en revanche, c'est que plus l'épidémie dure et plus Emmanuel Macron est assez seul dans ses décisions. On l'a vu hier à l'Assemblée nationale, on l'a vu au Sénat, où, au fond, la droite n'a pas voulu voter, la gauche n'a pas voulu voter, en disant « c'est le monarque qui décide de tout et nous, on n'est pas associé ». Donc, il y a une sorte de pari pour Emmanuel Macron de dire aux Français « je vous demande encore un effort, mais ça va être la dernière ».
Il n'y a plus d'union sacrée, y compris en politique.
Exactement. Hein, c'est ce que vous voulez dire. Et ça, je pense que c'est très lié d'abord à la proximité de l'élection présidentielle, ouais. Mais c'est aussi lié quand même au mode de décision du président de la République qui s'est affranchi quand même à la fin janvier, il s'est affranchi des recommandations du Conseil scientifique. On a vu aussi qu'à la mi-mars, il n'était peut-être pas tout à fait raccord avec son premier ministre, sur comment présenter, est-ce qu'on refait du reconfinement ou est-ce qu'on fait une troisième voie. On voit bien que c'est lui qui décide en dernier ressort, c'est lui qui décide sans d'ailleurs que tout le monde soit vraiment au courant. Donc au fond, la charge, elle repose entièrement sur ses épaules. Et donc je pense que ça explique aussi le sondage, c'est-à-dire les Français se disent oui, il faut prendre des mesures, mais la confiance, elle n'est pas là, parce que dans un autre sondage aussi, il y a notamment 53% des Français qui disent on ne fait pas confiance au président de la République.
Professeur Philippe Amouyal, il y a donc il y a une tolérance pour circuler partout en France jusqu'à lundi soir. Et c'est vrai qu'on présente tous ce week-end comme on a tous l'impression de c'est notre dernier week-end de liberté. Avec, du coup, en creux, n'y a-t-il pas un risque de relâchement et donc que ce soit un week-end de contamination ?
Oui, bien sûr, puisqu'on sait que c'est finalement dans la sphère privée, dans ces rencontres familiales, dans ces rencontres amicales, en particulier le week-end, que se fait la transmission du virus. On baisse la garde, on ne fait plus attention, on est entre amis, on ne peut pas imaginer qu'ils vont vous trahir en vous contaminant, mais malheureusement, c'est là que le virus circule le plus. Et ce qu'il faut absolument maintenant, c'est adopter au moins pendant cette période ce qui a été fait par les Français à Noël et au Nouvel An, où on a réussi quand même à éviter l'effet Thanksgiving en France.
Nicolas Bouzou, c'est mercredi soir, on a appris que les vacances étaient raccourcies, 15 jours ramassés, ce qui fait par exemple la zone B qui devait avoir les vacances qui s'étalaient jusqu'en mai, elles commencent la semaine prochaine. Il y a quand même des conséquences pour tous les professionnels du tourisme qui s'apprêtaient à accueillir des Français pendant des vacances qui devaient s'étaler jusqu'au 10 mai et qui finalement, annulation en cascade.
Oui, mais bon, il y a plusieurs choses à dire par rapport à ça. Déjà, la première chose, c'est qu'il y a beaucoup de professionnels du tourisme, les restaurants, qui sont fermés. Voilà, donc pour eux, ça change malheureusement pas grand-chose. Ensuite, je pense que tous les agents économiques du secteur du tourisme et du secteur de l'événementiel, etc., qui sont très touchés depuis un an, mais ont bien compris que, de toute façon, le retour normal des choses, c'était pas à court terme, c'était potentiellement à moyen terme grâce au vaccin, mais de toute façon, vacances ou pas vacances, c'était pas à court terme. En fait, moi, ce que j'observe, c'est que l'économie, elle s'est assez bien adaptée, au fond, hein, depuis un an, à ces différents confinements. D'ailleurs, on voit que, je mets de côté les secteurs, les magasins qui sont fermés, hein, eux, par définition, leur chiffre d'affaires est à zéro, mais quand on regarde le reste de l'économie, en fait, on voit que la baisse de l'activité est moins forte à chaque fois qu'il y a des mesures de restriction. Et c'était très clair entre le premier et le deuxième confinement. Premier confinement, au pire, on a eu une récession complètement incroyable, de l'ordre de 35%. Deuxième confinement, au pire moment, on avait une récession de 10-11%, oui. Parce qu'en réalité, les entreprises, le télétravail, maintenant, elles connaissent. Les magasins alimentaires, les gens font leurs courses quand ils le peuvent. Donc, vous avez toute cette économie qui n'est pas fermée, mais qui vivote à peu près. Celle qui est fermée, elle touche des aides qui sont extrêmement substantielles, très importantes. Et d'ailleurs, ce confinement coûte très cher aux finances publiques. Hein. C'est 3-4 milliards de plus par mois que la situation d'il y a une semaine. Mais à mon avis, l'impact pour ce type de secteur, il est presque plus psychologique qu'économique. Moi, je vois bien ce que me disent les gens. Ils me disent, mais M. Bouzou, vous savez, on a énormément d'aide. Vous prenez un restaurant, il y a énormément d'aide. Mais en revanche, et encore, les restaurants ont un peu travaillé cet été, mais prenez des salles de sport, par exemple, ou des salles de spectacle, ils me disent, mais ça fait un an qu'on est chez nous. Souvent, ce sont nos entreprises. C'est nous qui les avons créées. Ce sont nos capitaux et ça fait un an qu'on est chez nous. Et donc cette situation, psychologiquement, d'ailleurs les partenaires sociaux nous le disent, hein, mais elle est insupportable. Vous voyez, ça m'inquiète presque plus que les questions strictement financières. Les aides, elles vont dans la dette publique. Bon, la dette publique, on la remboursera par de la croissance. Ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui. Bon, la très bonne nouvelle quand même, et je pense que c'est pour ça aussi que l'économie, enfin le moral des agents économiques tient, c'est les vaccins et donc quand même une perspective de retour à la normale d'ici cet été.
Et François Fressoz, on touche là du doigt qu'avoir un travail, ce n'est pas qu'avoir de l'argent pour vivre, c'est aussi donner parfois un sens à sa vie. Quoi.
Oui, et je pense que, moi je suis tout à fait d'accord, je pense que le facteur psychologique aujourd'hui est très important, et on le voit pas seulement chez les personnes qui ne travaillent pas, mais aussi ceux qui travaillent en télétravail. Et je pense que dans les entreprises, ce qu'on constate, c'est que par exemple, ça fait depuis la mi-mars que le gouvernement presse les entreprises de réduire le présentiel et de faire un maximum de télétravail. Et les chefs d'entreprise disent, écoutez, on gère au mieux parce qu'on est face face à des cas de déprime. Il y a des salariés qui ne supportent plus de travailler à l'extérieur et on ne veut pas qu'ils soient en dépression. Et donc, c'est intéressant de voir aussi à quel point les chefs d'entreprise sont devenus, au fond, des gestionnaires psychologiques de leurs salariés et qui mettent eux-mêmes la jauge pour éviter qu'au fond, un jour, on leur dise « Mais écoutez, moi, je ne peux plus travailler, je suis au bout du rouleau ». Et ça, je trouve que c'est très intéressant à observer.
Alors, train bondé et autoroute saturée, à la veille d'un long week-end pascal, la France s'apprête donc à revivre les mêmes scènes qu'il y a un an lors du premier confinement. La fermeture des écoles va pousser les familles qui le peuvent à aller se confiner au vert ou à déposer leurs enfants chez les grands-parents. Les professionnels du tourisme, eux, se désespèrent des annonces du président. Les vacances de Pâques cette année se passeront à la maison. Sujet de Mathieu Lignot avec Juliette Vallon et Arnaud Fora.
Non, désolé.
Plus que quelques heures pour quitter Paris. De nombreux voyageurs sont attendus ce week-end dans les gares. Certains ont fait le choix de se confiner au vert.
Dans un appartement, c'est pas toujours évident avec des voisins en dessous qui, voilà, c'est... Donc, je préfère.
Je vis un peu dans ma chambre, en fait. Donc, il faut que je parte un peu, il faut que je bouge. Et donc, partir un peu à la campagne, s'aérer, c'est vrai que ça fait un peu du bien de changer d'air.
Hormis la famille, en fait, il n'y a aucun autre moyen de garde. Parce que pour les vacances, on avait prévu une autre organisation, mais comme tout est fermé, on n'a pas le choix. On est parti ce matin, c'était un peu difficile comme décision, mais on est parti.
La SNCF a enregistré 130 000 réservations après les annonces d'Emmanuel Macron. Plus 25% d'augmentation. Ceux qui partent ne seront pas contrôlés jusqu'à lundi.
Pour le week-end de Pâques, lundi inclus, et parce qu'on sait très bien qu'un certain nombre de familles vont vouloir descendre leurs enfants chez leurs grands-parents, par exemple, et que ces déplacements sont légitimes, nous appliquons une tolérance, donc samedi, dimanche, lundi, de manière à ce que ces déplacements légitimes puissent se faire et se faire en bon ordre. Et à compter de mardi matin, il y aura des contrôles beaucoup plus systématiques sur le motif de déplacement.
Ce soir, tous les établissements scolaires ferment. La semaine prochaine, cours en distanciel. Puis deux semaines de vacances, toutes les zones sont regroupées. Retour des élèves dans les écoles le 26 avril et dans les lycées et collèges le 3 mai. Des vacances chamboulées et à domicile. Une catastrophe pour les professionnels du tourisme. Ils attendaient avec impatience le début de la saison. Dans cet hôtel de Honfleur, seulement une dizaine de chambres occupées ce week-end. À chaque confinement annoncé par Emmanuel Macron, les mêmes conséquences.
À chaque fois qu'il parle, on se retrouve à avoir des annulations complémentaires et derrière, pas de nouvelles réservations. Donc nous, aujourd'hui, on arrive difficilement à se projeter sur l'avenir. Et puis, vous pouvez voir aussi sur le reste du mois. C'est-à-dire que le reste du mois, c'est totalement vide.
Même inquiétude sur la côte atlantique. Ce camping a ouvert la semaine dernière, mais déjà 40 salariés vont être mis au chômage partiel.
Aujourd'hui, notre sentiment, c'est qu'on va participer à l'effort collectif. C'est-à-dire qu'on sait que si on ferme aujourd'hui, c'est pour réouvrir cet été. Et il faut qu'on sauve notre saison. Et le principal, c'est d'ouvrir en juillet et août dans de bonnes conditions.
Le secteur du tourisme a bénéficié de 26 milliards d'euros d'aides de l'État jusqu'à présent. Insuffisant pour beaucoup d'établissements. Même chose pour les bars et restaurants. David Zenouda a perdu 30% de son chiffre d'affaires. Il se tient prêt à rouvrir dès que possible sa terrasse à Paris.
L'idée, ça va être de déplacer évidemment les tables pour qu'il y ait un mètre de distance à chaque fois, comme on l'a fait l'année dernière, que les clients restent assis.
Et Emmanuel Macron a donné un agenda, le 15 mai.
Vous voyez, cette table, si
ce sera la première étape vers la réouverture.
Ça fait presque 6 mois que nous sommes fermés, et ça fait 6 mois qu'on nous dit on verra dans 2 semaines en fonction de l'évolution. Donc quand on nous annonce la date du 15 mai, qui n'est pas vraiment une date, c'est la date de réflexion. C'est à partir de la mi-mai, on va commencer à réfléchir, à savoir comment on va procéder. Donc on a envie d'être optimiste.
Alors, c'est parti.
Les restaurateurs espèrent ouvrir début juin, comme l'année dernière.
Merci.
Pour atteindre cet objectif, ils demandent à être prioritaires sur la vaccination.
Si. On ne va pas obliger nos équipes à se vacciner, mais on demande à être prioritaire, parce que demain, si on veut faire revenir un Chinois, un Américain, qui sont les populations qui viennent le plus à Paris, Île-de-France, qui eux sont vaccinés, eh bien, ils reviendront que si dans les hôtels, les restaurants, c'est safe, et qu'ils peuvent savoir que le personnel est vacciné.
Le gouvernement miserait maintenant sur le traçage des cas contacts dans sa stratégie de réouverture des lieux publics. Le pass sanitaire pour les personnes vaccinées serait abandonné.
Alors, question téléspectateur, professeur Amouyel. Le gouvernement appréhende-t-il la période suivant Pâques autant qu'il redoutait les retombées des fêtes de fin d'année? C'est une question de NASA à Paris. C'est vrai qu'à Pâques, bah souvent, il y a des déjeuners familiaux. En fait, pour bien faire, il faudrait se forcer à se tester avant de revoir les siens.
Oui, ce serait une bonne solution, comme on l'a fait à Noël. Alors, je ne sais pas si le gouvernement le redoute, mais on est plusieurs épidémiologistes à penser que sur le plateau extrêmement élevé dans lequel on est, je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y avait plus de 50 000 cas positifs.
Et
le fait de remonter brutalement cette incidence par ce genre de... Oui, malheureusement, oui, pour ce moment-là, le fait de repasser à cette incidence peut être très dangereux, quoi.
Alors, pour se tester, Nicolas Bouzou, il y a une polémique sur pourquoi nous n'avons pas en France les autotests. C'est vrai que les Allemands, les Hollandais ont des autotests. Mmh. Donc, on peut se le faire chez soi.
Oui. Hein, dans le nez.
Dans le nez. Et en France, Olivier Véran a dit « J'ai essayé et je peux vous assurer que ce n'est pas aussi simple qu'on l'imagine. » Je précise que la Haute Autorité de Santé a validé pourtant l'utilisation de ces autotests en
France. Oui, et puis les Allemands ne sont dans leur grande majorité pas de l'avis de notre ministre de la Santé.
Oui, ils y arrivent,
utilisent énormément et ils y arrivent et ça marche très bien. Alors, on n'a pas les autotests pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a un lobbying assez fort de la part des laboratoires de biologie médicale et de la part des pharmaciens qui, en quelque sorte, ne veulent pas perdre la rente des tests.
Attendez. Vous êtes en train de dire, pour des questions de lobby, on met la santé des Français en danger.
C'est la première raison.
On laisse les Français se contaminer parce qu'il ne faut pas que les labos perdent l'argent des PCR.
Alors, ce que je peux vous dire, c'est que le lobbying, en tout cas, de ces professions au ministère de la Santé est relativement fort. Ça, je peux vous le dire. La deuxième chose...
Enfin, le ministre n'a pas accédé à un lobbying.
Oui, mais alors, je ne suis pas ministre de la Santé, donc je
ne vais pas être d'accord avec vous. Mais il va y avoir un scandale alors qu'il va
exploser. Je pense qu'il faut lui
pour
demander...
Pour des questions d'argent,
le mieux, c'est de lui poser la question directement. La deuxième chose, c'est que vous avez au ministère de la Santé une idéologie précautionniste, mais qui est... incroyablement forte, que l'on n'imagine pas. Et ce que craint le ministère de la Santé, c'est qu'un certain nombre de tests, et de ce point de vue-là, on peut comprendre ce que dit le ministre de la Santé, même si je ne partage pas du point de vue intellectuel, mais il y a vraiment cette crainte que les tests, en effet, soient mal utilisés et qu'on laisse les autotests en vente et qu'on ait quand même une augmentation extrêmement forte des contaminations. Et je crois vraiment, je me permets d'insister là-dessus, parce que c'est quelque chose qui est incroyablement présent au ministère de la Santé, l'administration de la Santé, elle est mais absolument tétanisée et de façon absurde parce que du coup, en effet, en ne mettant pas ces autotests dans le commerce, on fait objectivement prendre un risque à la population. Alors ce que je peux vous dire néanmoins, c'est que je crois savoir que ces autotests seront quand même en vente d'ici une quinzaine de jours.
Géraldine Vosner, alors est-ce que c'est le futur scandale là, qui va arriver après le scandale des masques qu'on ne savait pas mettre? On se souvient de Sibeth Ndiaye, les autotests qu'on ne saurait pas utiliser, c'est pour ça qu'on nous en prive.
C'est un vrai scandale, je suis complètement d'accord avec Nicolas Bouzou. Moi j'ai eu l'occasion d'enquêter sur cette question depuis déjà le mois de janvier et même avant, hein, parce que ça fait très longtemps qu'ils sont disponibles ces autotests. C'est vrai qu'il y a eu un lobbying très fort de la part des biologistes médicaux qui voulaient effectivement garder le marché des PCR, également de la part des pharmaciens qui ensuite eux ont dit jamais, au grand jamais, ça doit être vendu en grande surface parce qu'ils voulaient garder le marché. C'est quelque chose d'assez français, ça. On a ces corporatismes qui s'expriment et qui bloquent. Mais il y a aussi une deuxième raison, qui est une raison presque intellectuelle, philosophique. C'est-à-dire que, comme il le disait très bien, on les utilise dans un grand nombre de pays. En Autriche, par exemple, on teste 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi, l'intégralité des élèves et des enseignants qui viennent à l'école. Ça permet d'écarter 1 millier de cas positifs chaque semaine. Donc, c'est intéressant. Et en France, la Haute Autorité de Santé, d'autres, ont considéré pendant très longtemps et continue à considérer que, comme ce sont des tests qui sont moins sensibles, c'est-à-dire ils ont une sensibilité de... Alors on a dit 80% plancher, en dessous on ne les acceptera pas, mais 80%, c'est pas assez. Les gens risquent de se sentir protégés et de baisser les gestes barrières, on préfère les interdire. La réalité, c'est que même si c'est moins sensible, il est préférable de tester 80% de 12 ou 15 millions de personnes plutôt que 100% de 300 000 personnes. C'est à peu près ce que nous permettent les tests PCR. Donc en fait, on n'en sort pas. Cette espèce de perfectionnite qui nous coince, qui nous bloque en fait. Et ça, c'est vraiment une question presque psychologique en France.
Professeur Philippe Pamouyel, vous avez un point de vue. Ces autotests, ils permettraient de réduire les contaminations s'ils étaient en vente libre dans les grandes surfaces, par exemple ce week-end?
Oui, je pense. Hein, parce qu'aujourd'hui, notre problème, ce n'est pas tellement les cas positifs qui sont testés, mais c'est les cas positifs asymptomatiques qui ne sont pas dépistés. Pour les dépister, il faudrait faire des tests aléatoires dans la population. Et ces autotests permettent justement d'identifier ces gens-là. Et en effet, si au lieu d'en avoir 100, vous n'en avez que 80, c'est toujours 80 qui sortent du circuit des contaminations en France et qui permettent de réduire ce seuil fatidique de 50 000 cas.
Vous l'avez essayé, vous, les autotests?
Non, pas encore.
Bon, d'accord. Oui.
Oui, non. Ce que l'on voit à l'étranger, hein, c'est que les gens qui utilisent des autotests sont aussi des gens qui ne se font pas forcément tester. Oui. Donc, il n'y a pas d'effet de substitution. Hein. Ça vient en plus.
Françoise Fresso, c'est quoi? Alors, ça, c'est le gouvernement qui est perméable au lobby, ou bien c'est tout simplement la bureaucratie à la française qui fait qu'une bonne idée, il faut qu'elle chemine longuement avant d'arriver dans notre quotidien.
Je distinguerai deux choses. Je pense qu'il y a un problème bureaucratique, il y a un problème corporatiste et il y a un problème de principe de précaution poussé à l'extrême dans la direction de la santé. Et parce que moi, ce qui me frappe dans cette crise, c'est qu'au fond, Bercy, dans les aides aux entreprises, dans la capacité à réagir, à répondre, à ajuster le dispositif, a été sans arrêt en très grande performance. C'est-à-dire qu'ils ont mis quelqu'un, Alain Grisé, qui était très en contact avec les indépendants, et à chaque fois, il était à l'écoute, et à chaque fois, il a essayé d'inventer des choses par rapport au dispositif initial. La santé, on a l'impression que c'est un domaine, mais alors absolument, qui échappe à la... Et je pense aussi que la solitude de Macron, c'est-à-dire le fait qu'à un moment, il se soit affranchi de tout ça pour dire il faut y aller, ça montre aussi son incapacité à prendre la main sur cette administration de la santé. Et moi, l'une de mes grandes questions que j'ai sur cette crise, c'est je me dis pourquoi est-ce que, par exemple, à la fin de l'été dernier, il n'a pas essayé de changer un peu plus, c'est-à-dire est-ce qu'il aurait pu changer la tête du directeur de la santé, ou il a considéré qu'au fond, l'administration était tellement enquistée qu'il n'y arriverait pas.
Mais c'est le job d'Olivier Véran. Est-ce qu'il est en danger à cause de... on pourrait lui reprocher ses autotests.
Je pense qu'Olivier Véran, c'est un peu le rôle de chaque ministre, c'est-à-dire il est en défense de son administration, il est médecin lui-même. Je pense aussi que, au fond, peut-être qu'on n'a pas aussi tout ce qui pèse sur leurs épaules, c'est-à-dire que quand même, ils seront comptables au bout du compte du nombre de décès, ils sont comptables de procès qu'on va leur faire. Donc, il y a un principe de précaution très fort. Mais on sent quand même que s'il y a quelque chose d'urgent à faire en sortie de crise, ça sera de revoir en profondeur l'administration de la santé.
Géraldine Vosner, au-delà de ça, quand on est ministre, on agit la boule au ventre en disant « je vais avoir des procès et on me reprochera des autotests qui ne sont pas assez performants ou des places de réanimation insuffisantes et je vais me traîner des années de procès ».
Ben, c'est sûr que c'est quelque chose qui pèse en France particulièrement. On n'a pas ça dans le monde anglo-saxon. Hein. Il y a des procès, mais ce sont des poursuites au civil. Là, en France, il y a plus d'une centaine de plaintes au pénal qui ont été déposées contre des membres du gouvernement. Je vous rappelle quand même que Olivier Véran, c'est un ministre qui a dû débarquer les forces de l'ordre pour fouiller son appartement à 6 heures du matin en pleine crise sanitaire. Alors ça a aussi un énorme défaut, c'est que ça n'autorise pas le retour d'expérience. Si vous voulez, on a voulu tirer les leçons de la première crise sanitaire avec des commissions d'enquête, etc. Comment voulez-vous que des ministres qui ont une plainte par ailleurs qui pèse sur eux s'expriment librement quand ils savent que ce qu'ils vont dire peut être retenu contre eux dans les procès qui vont se tenir? Donc si vous voulez, tout le système comme ça est grippé, on n'ose pas dire les choses, on n'ose pas regarder clairement nos erreurs pour éventuellement les corriger, et on n'y arrive pas. Donc c'est vrai que ça aussi devra être réformé. De même que le principe de précaution dont on a parlé tout à l'heure, on voit que ce sont des facteurs extrêmement bloquants en période de crise et qui, en fait, font plus de mal que de bien.
Professeur Philippe Pamouyel, on va revenir aux annonces qui seront effectives sur tout le territoire à partir de lundi prochain, puisque désormais, on considère que tout le territoire est en zone rouge, parce qu'on considère que le virus est partout en France, sur la France métropolitaine. Dès lors, pourquoi nous interdire de faire plus de 10 km? Si le virus est partout, au fond, si je fais 10 km, il sera de la même façon que chez moi. Je ne sais pas si vous voyez la contradiction dans ces deux états de fait.
Alors le 10 km, il est plus pour laisser un ballon d'oxygène, et ce n'est pas complètement la mise sous cloche qu'on a connue au mois de mars. En revanche, ce qui est intéressant au niveau national, c'est que là, on a quand même anticipé. Les mesures n'ont été prises en Île-de-France, dans les Hauts-de-France, que quand on a atteint des seuils de plus de 400 cas pour 100 000 habitants d'incidence. Là, on l'a pris dans des régions où on est à 250, qui est d'ailleurs le seuil d'alerte maximal. Donc, ça permettra probablement d'éviter que dans ces régions, ça s'emballe. Maintenant, le transfert, alors bien sûr, au-delà de 10 km, les mouvements interrégions sont des éléments de transfert de la contamination et d'équilibrage. Ça a bien été montré par les Chinois quand ils ont fait la progression de l'épidémie à partir de Wuhan, par les Indiens et par les Anglais, et même par les Italiens quand Milan est allé contaminer Bergame. Donc voilà, c'est des éléments qui sont importants aussi de limiter les déplacements. Les déplacements physiques individuels à 10 km, ça reste raisonnable et ça donne un peu d'oxygène dans cette ambiance de pseudo-confinement, mais ça reste quand même des éléments qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est-à-dire la limitation des mouvements et des déplacements.
Ce pseudo-confinement, il doit durer jusqu'au 26 avril. Philippe Amouyel, l'an dernier, le confinement devait durer 15 jours, il a duré 2 mois. Est-ce que selon vous, au fond de vous-même, il y a quand même des chances que ça s'éternise et que le 26 avril, on ne soulève pas la cloche ?
Alors, je voudrais juste préciser que le premier confinement, dès le départ, il devait durer 50 jours. Il a été annoncé par tranche de 15 jours, mais l'enjeu était à 50 jours parce qu'en plus, on ne savait pas quel allait être l'impact et quelle vitesse allait être l'impact. Là, on est dans la même situation avec une inconnue qui est qu'on ne connaît pas aujourd'hui l'impact des mesures nouvelles qui ont été mises en place, ces mesures de freinage. On ne sait pas comment les modéliser, on ne sait pas ce qui va se passer. Ce n'est pas du couvre-feu, ce n'est pas du confinement. Est-ce que ça va donner le même effet ? On est à des niveaux très élevés de contamination. Est-ce que ça va baisser en 2 à 3 semaines, comme dans le cas, commencer pardon, à baisser 2 à 3 semaines, comme dans le cas d'un confinement ? Est-ce qu'il va falloir plus de temps ? Je pense qu'il va falloir faire des points extrêmement réguliers sur la décroissance qu'on va observer, en particulier dans les régions qui ont été mises sous confinement les premières, c'est-à-dire Dunkerque, Nice, Pas-de-Calais et...
Donc vous êtes incapable de nous valider ce qu'a dit Olivier Véran, qui a dit que le pic de l'émission, de la contamination, c'était dans 7 ou 10 jours. En fait, on n'en sait rien.
Non, parce qu'il y a tellement... On peut faire ces calculs et ces projections uniquement quand on a une idée des modèles qu'on va pouvoir mettre derrière. Mais là, il y a eu maintenant tellement de variables nouvelles qui sont entrées en jeu. Le couvre-feu, qui, je vous rappelle, a été assoupli. Des mesures de restriction le week-end, des pseudo-confinements. Donc on ne sait pas quel va être l'impact. Il va falloir avoir une certaine expérience, c'est-à-dire 3-4 semaines, pour voir ce qui se passe, pour ensuite modéliser et éventuellement faire des projections. Mais aujourd'hui, moi, je suis incapable de faire des projections.
Françoise Fressaud, c'est vrai que vous parliez tout à l'heure de l'exercice solitaire du pouvoir d'Emmanuel Macron. Hier, à la tribune de l'Assemblée nationale, Jean-Luc Mélenchon a parlé d'un président monarque. On parle de monarchie présidentielle. Est-ce que même ça n'a pas été renforcé, j'allais dire, par la gaffe de Jean-Michel Blanquer, qui, tel dans la cour du roi Louis XIV, est allé, je caricature un peu, mais a dit que l'un des meilleurs épidémiologistes de France, c'était Emmanuel Macron.
Ben, si, il y a un peu de ça, mais en même temps... Au fond, je comprends aussi que de son point de vue, il n'ait pas voulu être entièrement prisonnier. Par exemple, en fait, je pense que toute la polémique d'aujourd'hui, elle date de cette fin du mois de janvier où un président de la République, après s'être beaucoup appuyé sur le pouvoir scientifique, pourquoi ? Parce que à l'époque, il sortait du mouvement des Gilets jaunes. Sa légitimité politique était extrêmement affaiblie. Et il doit affronter une épidémie dont personne ne sait les tenants ni les aboutissants. À ce moment-là, évidemment, il va constituer un conseil scientifique et essayer de s'entourer de l'avis d'experts qui en savent un peu plus que lui. Et donc, il a eu toute cette période très importante. Et d'ailleurs, au début, on lui a reproché, mais vous êtes trop à la remorque des scientifiques. Le geste d'affranchissement, c'est bien fin janvier, quand il dit, mais il y a peut-être une autre voie que refaire un confinement massif de 4 semaines en février. Mais depuis, on a l'impression, au fond, ce qui pollue un peu le débat, c'est qu'on a l'impression qu'il en fait aussi une sorte de fierté, de dire, moi, j'ai été dans l'Europe, celui qui a maintenu les écoles ouvertes, et puis, vous voyez bien, on a évité un reconfinement général. Et donc, là, il est vraiment au pied du mur. C'est-à-dire que si, à la mi-mai, ça fonctionne, on dira, bah, bravo, finalement, il a
eu raison contre tout le monde.
Si ce n'est pas le cas, ça sera beaucoup plus difficile. Et je pense que les oppositions commencent à dire...
À l'attendre au tournant là-dessus.
Et à l'attendre au tournant et lui dire, mais on ne peut pas gérer une crise sanitaire tout seul comme vous le faites.
Mais Géraldine Vosser, on voit même du coup que la logistique a du mal à suivre et qu'elle est prise au dépourvu face à ces annonces verticales qui tombent. J'en veux pour preuve, aujourd'hui, on ne sait toujours pas si les assistantes maternelles pourront continuer de pouvoir garder les enfants. Ou encore, cette histoire là, de parents qui télétravaillent et qui gardent les enfants, alors en catastrophe, on dit « Ah bah, s'ils n'y arrivent pas, ils peuvent se mettre à temps partiel ». Tout ça donne l'impression d'une improvisation dans la mise en pratique des décisions élyséennes.
Mais parce que c'est effectivement improvisé. Alors, les assistantes maternelles, si, on l'a appris il y a quelques minutes, elles pourront garder les enfants. Fin de la parenthèse. Mais c'est vrai que c'est parfaitement improvisé, mais parce que depuis le début de cette crise, hein, c'est assez particulier aussi. Emmanuel Macron n'a pas vraiment fixé une stratégie avec un objectif. L'objectif, il l'a abandonné finalement. L'objectif qu'il avait fixé au moment de la deuxième vague, c'était on va redescendre à 5000 cas par jour. Et c'est 5000 cas ce qui nous permettra de reprendre notre stratégie qui reposait sur les piliers, tester, tracer, isoler. Cet objectif, il a complètement disparu. Partant, on comprend que la stratégie tester, tracer, isoler, elle n'existe plus. Aucune autre stratégie ne l'a remplacée. Donc, moi, ma supposition, c'est que le 29 janvier, il fait un pari. À ce moment-là, les médecins lui disent, attention, avec le variant anglais, quand le variant anglais aura atteint 60-70% de prévalence, on risque d'avoir une courbe exponentielle, ce qu'on a vu en Grande-Bretagne, et ça pourrait se passer vers la mi-mars. Voilà. Et Emmanuel Macron, le 29 janvier, il fait le pari que ça dure le plus longtemps possible et qu'on reste le plus longtemps possible sur un plafond haut, un plateau haut, en se reposant sur les gestes barrières. Bon, ce pari, il a tenu bon an, mal an, jusqu'à ce qu'il se produise ce que les épidémiologistes avaient en fait très bien prévu, avec une ou deux semaines peut-être de décalage. Mais il n'y a pas d'autre stratégie dans ce scénario que le confinement. Et à côté de ça, il joue aussi, en attendant les vaccins, une forme d'immunisation collective, hein, finalement, parce que le virus circule, des gens l'attrapent, se contaminent, et ça va aussi soutenir la politique vaccinale à un moment donné. Mais on voit très bien que la stratégie du tester, tracer, isoler, elle n'existe plus depuis un certain temps.
Et puis alors, du coup, avec ce confinement, enfin, je ne sais pas si on peut dire confinement, cette stratégie du bol d'air est allée à toute la France, on revit ce qu'on avait vécu l'an dernier, c'est-à-dire qu'on a des urbains qui ont des résidences secondaires, qui peuvent télétravailler, et puis des salariés, eux, en première ligne, qui ne peuvent pas télétravailler, qui sont dans de petits appartements, et qui, là, vont avoir les enfants sur les bras, en plus, pendant 4 semaines.
Ça, c'est vraiment quelque chose qui me frappe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que les entreprises ont du mal à faire respecter le télétravail, parce qu'il y a une pression, mais très forte, d'une partie des salariés pour revenir au bureau. Et ce sont notamment des salariés qui sont très jeunes, donc dans les villes, en effet, avec des loyers élevés, et donc des surfaces petites, ou même qui peuvent vivre encore chez leurs parents. Et eux, c'est pareil. Vous avez certaines grandes entreprises, il faut quand même le savoir, qui sont en télétravail intégral depuis un an. Les salariés ne sont jamais revenus. Ils ne sont pas revenus cet été. Ce ne sont pas des PME. Hein. Les PME essaient de faire des choses, des mix. Mais les grandes entreprises, vous en avez certaines, qui sont encore à 100% de télétravail ou à 90-80% de télétravail. Donc, c'est extrêmement difficile, en effet, pour les plus jeunes, pour les plus précaires, pour ceux qui vivent en banlieue, qui sont aussi d'ailleurs les endroits, si vous prenez les banlieues nord d'un certain nombre de villes, vous prenez le 93, c'est là où on se contamine le plus, parce que c'est là aussi que les logements sont les plus petits.
Alors, il y a un secteur qui est quasiment à l'arrêt depuis le début de l'épidémie, c'est la culture, tout ce qui est cinéma, théâtre et musée. Or, d'après plusieurs scientifiques, des solutions existent pour permettre à ces lieux de rouvrir sans craindre de contaminer les visiteurs. Vous voyez ce sujet de Laszlo Gélabert et David Lemarchand.
Sur le fronton du théâtre de l'Odéon, les banderoles ont remplacé les affiches. Le spectacle annoncé est celui d'une culture qui s'estime sacrifiée. Depuis plus d'un mois, une cinquantaine d'intermittents occupent cette grande scène nationale. Parmi eux, Salomé Gaddafi. L'an dernier, cette cadreuse professionnelle n'a travaillé qu'un seul jour.
Alors, ce que je disais à Manon, c'est qu'en fait, avant l'AG, ce qui serait top, c'est qu'on installe déjà les trucs là-haut, comme ça, au moins...
Depuis qu'elle a rejoint le mouvement, elle s'occupe du ravitaillement.
On a stocké petit à petit de la nourriture. On a beaucoup de soutien à l'extérieur, plein de gens qui suivent le mouvement et du coup qui nous ont amené plein de choses. Parce que c'est vrai qu'on est arrivé, on n'avait absolument rien.
Comme à l'Odéon, 90 théâtres partout en France sont aujourd'hui occupés par des intermittents en colère. Les 50 millions d'euros d'aide du gouvernement ne changent pas leurs revendications. Retrait de la réforme de l'assurance chômage, prolongation de leurs droits d'indemnisation et surtout la réouverture des lieux culturels. C'est le vœu le plus cher de Thibault Lacroix, 25 ans passés sur les plus grandes scènes d'Europe.
Alors c'est quoi ici ?
Ouais, c'est ma chambre.
En octobre dernier, ce comédien est en pleine représentation à Bordeaux, lorsque le théâtre baisse le rideau.
C'est complètement aberrant.
Qu'est-ce qui est aberrant ? Tu peux me le dire ?
Bah, parce qu'on attrape vachement plus apparemment de microbes dans ce genre d'endroit qu'ici.
Quel endroit, pardon ?
Bah, les supermarchés, les, tout ça. Les gens touchent ici. Bon, bah, si les gens font attention, ils arrivent, ils mettent leur masque, ils assistent à une représentation, personne à côté d'eux, ils peuvent rire dans leur masque.
Pour la première fois depuis 6 mois, l'horizon semble s'éclaircir. La réouverture des lieux culturels est envisagée dès le 15 mai. La lueur d'espoir de tout un secteur qui réfléchit déjà à des solutions pour accueillir son public. Comme dans ce cinéma où se joue une scène du monde d'avant. Ce jour-là, 200 personnes participent à une séance test exceptionnelle avec un protocole sanitaire très strict.
Voilà, vous les mettez à droite et à gauche de vous.
D'accord,
comme ça, la distanciation physique est bien respectée. Voilà, très bonne séance.
Nous le ferons, merci.
Dans les 3 salles ouvertes pour l'occasion, le nombre de places est limité à 30%. Des mesures drastiques, loin, très loin, de décourager les spectateurs.
Ça nous fait beaucoup respirer. Ça nous fait retrouver des moments tant attendus.
On a l'impression qu'on ressuscite. Je pense qu'on a besoin de culture et donc il faut rouvrir le plus vite possible toutes les salles de spectacle, cinéma, théâtre, danse, enfin tout.
Autour. Même dans ces conditions.
Oui, même dans ces conditions.
Rouvrir rapidement les salles car il y a urgence. Après avoir perdu 800 000 euros de chiffre d'affaires l'an dernier, l'équipe du cinéma a voulu prouver qu'elle pouvait accueillir du monde en toute sécurité.
Ça nous donne espoir parce qu'on voit que le public a répondu présent immédiatement. En une demi-journée, les inscriptions étaient pleines. Donc ça, pour nous, c'est très important moralement. Et on espère effectivement que le gouvernement va voir qu'on est capable d'ouvrir des lieux culturels.
En plus de l'approbation du public, l'univers de la culture peut compter sur celle des scientifiques et des médecins. Patrick Peloux a participé à une assemblée des théâtres le 25 mars dernier. Cet urgentiste compte beaucoup sur les bienfaits de l'art en pleine pandémie.
Pour moi, c'est essentiel pour le moral des gens, pour le fait d'appartenir à la société, d'avoir des ouvertures et des champs des possibles et la création. Et tout ça, ça fait que d'un coup, on l'a dit et redit, ça a été dit par les psychiatres, les pédopsychiatres, les gens sont dans une vraie souffrance hein, et il faut absolument réussir à renouer avec la culture et la création.
Malgré les solutions envisagées, certains protocoles sanitaires sont d'ores et déjà jugés trop contraignants. Les Eurockéennes de Belfort, un des plus gros festivals de musique en France, vient d'être annulé, au grand dam des organisateurs et des festivaliers.
Nicolas Bouzou, question de Robin dans l'Indre. Comment croire à l'échéance du 15 mai ? C'est vrai qu'encore aujourd'hui, on a appris de l'annulation de nombreux festivals pour le mois de juillet.
Oui. Alors, si on regarde un peu ce qui se fait à l'étranger, dans certains pays européens, aux États-Unis, en fait, on voit qu'avant d'avoir atteint l'immunité collective, qu'on n'aura bien évidemment pas le 15 mai, parce qu'on ne vaccine pas suffisamment vite, mais avant même, en fait, ils arrivent à rouvrir des lieux de culture ou des restaurants de façon extrêmement progressive. En fait, il y a deux façons de faire. Il y a la façon de faire à l'américaine, dans l'État de New York, par exemple. On fait les choses vraiment très lentement, avec des jauges incroyablement strictes, en mettant en priorité le plein air, notamment pour les restaurants. Donc ça, c'est la première façon de faire. Alors, il faut quand même encore des aides, hein, parce que du coup, là, les cinémas, les salles de spectacle, les artistes ou les restaurateurs, ils ne peuvent pas avoir un chiffre d'affaires normal. Il y a une deuxième façon de faire, c'est la façon de faire israélienne, c'est-à-dire 10 jours après la deuxième injection de vaccin, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Je rappelle qu'une étude a été publiée cette semaine sur les vaccins ARN messagers qui montre, on le sait maintenant, on en est sûr, qu'ils empêchent la transmission. 80%
ça,
après
nouvelle.
La première injection, 90% après la deuxième injection. Et donc, je sais que la France, a priori, refuse cette idée de passeport, de passe sanitaire, les Danois appellent ça un coronapass, mais sur le plan intellectuel, c'est quand même pas idiot parce que ça permet d'ouvrir tout de suite.
Du coup, on en profite, professeur Philippe Amouyal, pour rebondir sur la question qu'on a posée dans la première partie. Si les grands-parents ont été vaccinés, est-ce que 10 jours après, ils peuvent recevoir leurs petits-enfants pour les vacances de Pâques sans craindre d'attraper la maladie et même d'en faire une forme grave ou même de l'attraper tout simplement.
Dans ce que dit Nicolas Bouzou, c'est après la deuxième injection, oui. Après la deuxième injection, oui. Après la première injection, c'est quand même plus difficile parce que les taux de couverture ne sont pas complètement de 100% pour les formes graves. Mais en effet, oui, c'est un avantage d'avoir ça. Et surtout le fait de savoir maintenant qu'on protège également de la transmission, chose qui n'était pas encore claire, est un élément très important parce que c'est pour ça aujourd'hui qu'on recommande de continuer à porter le masque même quand on est vacciné pour éviter de contaminer quelqu'un par une personne vaccinée qui elle-même aurait quand même attrapé le virus d'une manière ou d'une autre. Donc je pense que c'est un élément important et je crois que si vraiment on veut avancer, que ce soit pour les restaurants, les bars ou même les lieux, et surtout les lieux culturels, la notion de passe sanitaire permettrait de démarrer progressivement parce qu'il va falloir relancer ces machines. Ça ne va pas être simple, en particulier pour les spectacles. Il va falloir redémarrer. Donc je pense qu'un redémarrage progressif, un, donnerait de l'espoir et deux, serait peut-être un moteur également parce qu'on va avoir besoin de vacciner beaucoup de monde, hein, plus de 70% de la population, voire 80% de la population. Donc ça pourrait être un outil de motivation important.
Le problème du pass sanitaire, Françoise Fresseau, est-ce que ça ne veut pas dire que ceux qui sont vaccinés, à savoir les seniors, auraient le droit d'aller au restaurant et au concert, et ceux qui ne sont pas vaccinés, les plus jeunes, eux, seraient assignés à résidence chez eux ?
Si, et en plus, c'est complètement antinomique avec l'idée que développait Emmanuel Macron en disant la vaccination est libre, c'est-à-dire vous avez la liberté de vous faire vacciner ou pas. Mais s'il n'y a pas ce passe vaccin, on peut peut-être quand même envisager des choses pour dire que vous n'êtes pas contaminé ou que vous avez fait un test. Voilà. Je pense qu'à un moment, ça va finir par s'imposer parce que ça va être effectivement une des conditions de la réouverture des salles de spectacle et des restaurants.
Géraldine Voster, question un peu polémique. C'est vrai qu'on voit le monde du spectacle qui peine à se faire entendre. Est-ce que on peut parler de l'échec de la soirée des Césars a nuit leur combat et fait qu'aujourd'hui, on est peut-être plus en sympathie avec, malheureusement pour eux, avec, on les entend moins en tous les cas.
C'est certain qu'ils ont donné ce soir-là un spectacle. Un spectacle nombriliste avec des gens en tenue de soirée qui vivent d'ailleurs pour la plupart de subventions, qui viennent vous expliquer qu'avec une violence complètement disproportionnée que le gouvernement est en train de les tuer, est en train de tuer la culture. C'était plus un meeting politique d'ailleurs et c'était pas fin parce que ils ne représentent pas le cinéma. Le cinéma, c'est pas que ces gens-là. Et surtout, ils ne représentent pas la culture. La culture, c'est bien d'autres choses. Et on l'a vu dans votre reportage, c'est un univers beaucoup plus vaste, beaucoup plus divers. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont dans des situations dramatiques, même si le secteur est aidé, hein, et il est aidé assez bien par le gouvernement. Il y a eu des rallonges, etc. C'est vrai que on peut comprendre le désarroi de ce monde du spectacle et souvent les gens aussi du mal à réaliser que, par exemple, on n'est pas rouvert les musées parce que c'est assez simple de réguler des jauges dans les musées, de mettre 2 personnes par salle. Mais on oublie aussi que toutes les études, et notre épidémiologiste me contredira peut-être, mais on voit quand même une très très forte corrélation entre la circulation du virus et les déplacements, tout simplement. Donc c'est vrai que quand il faut faire des choix de restriction, de déplacement, et ben les lieux de culture sont apparus comme non prioritaires. La question, elle va vraiment très vite se poser sur le passeport sanitaire, le pass sanitaire, parce qu'effectivement, ça permettrait demain de retourner tous au cinéma et surtout des salles sans jauge, parce que là, on est en train de refaire des protocoles extraordinairement complexes. Quelle entreprise peut se permettre sur du long terme d'avoir des jauges de 30% de clients? Ça n'est pas rentable et on va rester sous perfusion.
Nicolas Bouzou, qui dit réouverture dit fin des aides. Qui dit fin des aides, est-ce que ça ne dit pas faillite? Est-ce que ce n'est pas là qu'on va s'apercevoir de l'hécatombe qui...
Non, parce que... Alors, déjà, les aides ont été d'une efficacité redoutable contre les faillites, puisqu'il y a beaucoup moins de faillites aujourd'hui qu'avant la crise. Hein. Et c'est vrai dans tous les pays. Hein. Vous prenez l'Allemagne, l'Angleterre, on est à 15, 20, 30, 35% de faillites de moins que l'année 2019, qui était une bonne année du point de vue économique. Donc ces aides, elles fonctionnent bien. Dans aucun pays, et certainement pas en France, on considère qu'on va appuyer sur le bouton éteindre les aides. Voilà. Non, bien sûr que non. Donc, je pense que tous les ministres des finances des pays européens, et en tout cas le ministre français de l'économie, a parfaitement en tête le fait que les aides, elles iront au-delà de la sortie de la crise sanitaire, surtout pour certains secteurs. Si vous prenez les restaurants, par exemple, on peut imaginer, on regarde là encore ce qui se passe en Israël ou en Angleterre, on voit que les restaurants, ça remarche très bien rapidement. Alors, ça ne se remet pas en marche tout de suite, un restaurant, ça prend peut-être quelques semaines, mais globalement, l'activité, le chiffre d'affaires redevient très élevé rapidement. Mais si vous prenez les salles de spectacle, l'industrie du cinéma, c'est beaucoup plus compliqué, parce que l'industrie du cinéma, vous avez des films qui ont été tournés l'année dernière, mais les films qu'on va voir dans les salles à la réouverture des cinémas, ce ne sera pas des films qui ont été tournés il y a 6 mois, ce sont des films qui ont été tournés il y a 12 mois ou il y a 18 mois.
Mais il va en bouteillage déjà.
Donc le film qui a été tourné il y a 6 mois, on ne sait pas quand est-ce qu'il générera des recettes. Et ce que je dis là, vous pouvez, le raisonnement pour le théâtre est très exactement le même. Donc là, on sait bien qu'il faudra des aides et des soutiens pendant plusieurs années.
Il va y avoir un embouteillage au théâtre et dans les cinémas quand tout va rouvrir. Alors en attendant, c'est la lumière au bout du tunnel. Selon les mots d'Emmanuel Macron, il s'agit bien sûr de la vaccination. Et la montée en puissance promise par Emmanuel Macron se concrétise notamment grâce à la mise en place de vaccinodromes géants. Vous voyez ce reportage au Vélodrome de Marseille de Noé Poitevin et Maxime Liogier.
Le stade Vélodrome a enfin retrouvé ses Marseillais. Pas de match ni de supporters cette fois, mais des habitants venus recevoir leur injection. Depuis le 15 mars, le complexe s'est transformé en vaccinodrome.
Les personnes ont des rendez-vous à 8h55, il n'y en a pas ?
Des créneaux horaires nombreux et des rendez-vous qui s'enchaînent toute la journée. Ici, ce sont les marins-pompiers de la ville qui supervisent les lieux, avec à leur tête Thierry Zaveroni. C'est à cet ancien pompier de 59 ans, réserviste, qu'on a confié la mission d'ouvrir ce centre. Alors il a organisé un parcours millimétré.
Ils sont orientés vers les cabinets médicaux, où là, vous avez 7 médecins qui vont les recevoir et les rendre éligibles ou non à la vaccination.
Dans le Vélodrome, 3 circuits de vaccination ont été aménagés sous les tribunes, comme celui-ci, au premier étage.
Ces cabinets de vaccination, nous en avons 13 sur ce niveau et nous en avons 6 au niveau du rez-de-chaussée.
Et derrière les box, la pièce maîtresse.
Nous avons un frigo équipé d'un tachygraphe qui nous permet donc de bien avoir une lecture sur la température de ce degré. Et ensuite, nous avons à l'intérieur l'ensemble de nos flacons.
260 flacons précisément. Des doses de vaccins qui vont profiter à plus de 1700 personnes dans la journée, comme Simone Layani, 89 ans. Cette retraitée n'est pas venue seule. Sa petite fille, soignante en maison de retraite, a pris un peu de son temps pour l'accompagner.
J'ai très peu. Non, pour ça, non.
Non. Je veux voir si elle n'a pas de douleur, de fièvre ou quoi que ce soit après. Et je suis là pour l'accompagner, en tout cas.
Je l'attends avec impatience. Hein. C'est la seule qui soit près de moi. Les autres enfants sont loin, alors.
Température, on est bon.
Madame, bonjour.
On est bon, j'ai pas de fièvre.
Non.
Dommage.
Et au bout d'une demi-heure, le temps de la piqûre.
Il va ?
Allez-y, allez-y, sans problème. Hop.
Ce moment, Simone Layani l'attendait depuis longtemps.
Grâce à vous.
Je vais pouvoir tout faire refaire, tout refaire. Si M. Macron me donne l'autorisation d'aller au restaurant, d'aller au théâtre, et de voyager et d'aller voir mes petits-enfants.
Pour vacciner des milliers de personnes chaque jour, la ville fait appel à 18 infirmiers libéraux. Frédérique Monnier en fait partie. Elle travaille ici 2 à 3 fois par semaine sur son temps de repos. Malgré la fatigue, elle n'a pas hésité à venir prêter main forte.
On n'avait pas beaucoup de doses au départ. Et là, on a reçu des doses. Et donc, ils nous donnent les moyens de vacciner un maximum de gens. Et dès qu'on a des doses, nous, on est là, on pique à la chaîne le maximum de monde en minimum de temps.
Et pour ne pas gâcher les doses restantes en fin de journée, le vaccinodrome a trouvé une solution, la liste complémentaire.
Allez, bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir.
Vous allez bien ?
Oui.
On est en forme ?
Oui.
Alors, je vous avais promis hier soir une jolie surprise. Et la surprise est présente. Donc, allez, première mi-temps, on démarre. Les plus de 75 ans. Allez.
Sans avoir pris rendez-vous, 50 personnes vont pouvoir bénéficier de leur précieuse dose.
Franchement, c'est difficile pour trouver des rendez-vous.
ou il n'y a plus de doses, ou alors... Et pourtant, 70, 75, 73, 77.
C'était inespéré?
Oui, absolument. Et on nous a dit que c'était l'endroit à Marseille, le stade Vélodrome, où il fallait être. Donc, allez.
Depuis l'ouverture du centre, le rythme de vaccination ne cesse de s'accélérer. Lundi, 2100 doses vont pouvoir être injectées. À terme, l'objectif est de vacciner ici plus de 4000 personnes par jour.
Alors, question téléspectateur, professeur Philippe Amouyel. Sommes-nous reconfinés parce que nous manquons de vaccins? C'est vrai que le 12 avril, dans 10 jours, les Anglais rouvrent les pubs. On va les envier, les Anglais.
Non, on est confinés parce que le virus circule à un niveau trop élevé. C'est un moyen de le stopper, de refroidir et d'essayer de limiter la surcharge des hospitalisations. Le vaccin, c'est un mécanisme parallèle. Il est important de le faire et massivement. Et c'est une bonne nouvelle qu'on ait enfin ces vaccinodromes en France. Ça permettra, dans un délai qui va prendre un certain temps quand même, d'avoir un autre effet sur l'épidémie en la réduisant. Mais pour le moment, il y a urgence. Le taux d'infection est trop important et le vaccin n'aurait pas suffi. Ça n'exclut pas qu'actuellement, on n'ait pas assez de doses. Attention, on ne peut pas dire ce que j'ai dit. Mais je pense qu'il ne faut pas corréler les deux. Il aurait été nécessaire de le faire même si on avait eu des doses.
Pourquoi dites-vous que le vaccinodrome est un moyen efficace? C'est parce qu'au début, on avait vanté la stratégie du médecin traitant qui vous rassure et qui vous prend en charge.
D'accord, mais rappelez-vous, on avait commencé à des vitesses encore moins rapides. Mais si on veut atteindre rapidement une immunité collective, il faudrait faire, comme font les Anglais actuellement, 500 000 vaccinations par jour. Et ce ne sera pas possible qu'avec les médecins traitants, qu'avec les infirmières ou qu'avec les pharmaciens. Il faut ces espèces d'usines à vacciner qui permettent en plus d'optimiser les doses et leur usage. Donc il faut qu'on le fasse très vite et c'est aussi un moyen. Ça n'exclut pas les autres, attention, c'est complémentaire et il faut utiliser toutes les méthodes.
Encore faut-il, Nicolas Bouzou, que nous ayons les doses?
Alors nous allons les avoir, là on en a manqué, mais on a des livraisons très importantes qui arrivent d'ici 15 jours, 3 semaines, donc des livraisons du vaccin Pfizer-BioNTech, qui est déjà celui qu'on utilise le plus en France, et qui vont compenser partiellement la diminution des livraisons de vaccins AstraZeneca. Et puis on a un nouveau vaccin qui va arriver, qui est le vaccin Johnson & Johnson, Janssen en français, qui est un vaccin qui est intéressant parce que c'est un vaccin avec une seule injection. Et on voit d'ailleurs qu'aux États-Unis, certains États commencent à l'utiliser, par exemple, pour des personnes qui n'ont pas de domicile fixe, pour lesquelles il n'est pas possible de faire deux injections, où on le propose systématiquement aux gens qui passent aux urgences hospitalières. Ça veut dire que la pression qui va peser sur le ministère de la Santé en termes d'organisation va être très importante parce qu'il n'y aura plus l'excuse du manque de doses. Et moi, j'ai fait le même calcul que le professeur Amouyel. J'ai calculé que si on veut libérer l'économie, c'est le sujet qui m'intéresse, si on veut libérer l'économie complètement cet été, il faut 60% de gens vaccinés. Ça veut dire, à partir du moment où on a ces livraisons, donc dans 3-4 semaines pour se laisser un peu de temps, ça veut dire 500 000 injections par jour. Voilà, 500 000 injections par jour. 500 000, ça paraît beaucoup, mais on est nombreux en France. Et les Américains y arrivent, ils font plus d'1% de la population tous les jours.
Mais est-ce qu'il y a une appétence, Françoise Fressos, pour se faire vacciner?
C'est la question.
Voilà.
Je trouve que c'est la question parce qu'au fond, au tout début de l'épidémie, au tout début de la campagne de vaccination, on entendait beaucoup de personnes qui cherchaient des doses et qui ne les trouvaient pas. Ce qu'on entend là, c'est qu'il y a toujours les mêmes personnes qui cherchent, mais il y en a d'autres qui refusent les vaccins parce que AstraZeneca, ça ne va pas. Et donc, tout d'un coup, par moment, vous avez des centres qui s'ouvrent à des personnes qui ne sont pas dans les règles normalement parce qu'il y a un excès de vaccins et il y a un risque qu'on les jette. Et ce qui m'a frappé, moi, dans l'intervention d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a dit qu'il faut vacciner. Oui. Mais à aucun moment, il a dit, écoutez, il a pas pris chaque Français par la main en disant, écoutez, c'est très important que vous vous vacciniez parce que c'est important pour vous, c'est important pour le pays, c'est important pour la... Et je trouve qu'il y a encore ce frein au fond de la peur des pouvoirs publics face à toujours ceux qui sont en doute par rapport au vaccin, de leur forcer la main ou en tout cas de leur dire à quel point c'est important. Or, je trouve que dans cette crise, le fait de disposer de vaccins un an à peu près, un peu plus d'un an après le déclenchement de l'épidémie, ça devrait être quelque chose de formidablement valorisé. Et on est toujours dans cette peur de si jamais on fait vacciner, qu'il y a des plaintes ou des choses. Je trouve ça il y a un manquement de la confiance politique et de la confiance en général des Français.
Professeur Amouyal, à la fin de son intervention, Emmanuel Macron a aussi dit qu'il fallait renforcer notre capacité à fabriquer des vaccins en France. Pourquoi ? Parce qu'il dit qu'il redoute l'arrivée à l'automne d'un variant contre lequel les vaccins que nous avons aujourd'hui ne fonctionneraient pas. C'est un scénario qu'il faut redouter. On repart à zéro à la rentrée en septembre.
C'est une possibilité, surtout si le virus circule au niveau où il est actuellement. Non, je ne pense pas. Il faut voir ce qui va se passer. Ce qu'on ne sait pas, c'est si l'immunité va durer suffisamment longtemps. L'expérience qu'on a avec d'autres types de coronavirus qui nous donnent des petits rhumes chaque année, les coronavirus de type alpha, montrent qu'apparemment, on tient une immunité 2 ans, une immunité naturelle. Donc, il faudra probablement revacciner, mais ce n'est pas un enjeu. On le fait pour la grippe. Et là, on pourra le faire encore plus facilement, dans la mesure où, avec ces vaccins à ARN messager, on est capable de dessiner exactement les mutations qui vont nous permettre de lutter contre les variants. Donc, il faut aborder ça sereinement. Il faut se dire qu'on va quand même probablement avoir des rappels réguliers. Mais on le fait pour la grippe, on le fait pour d'autres maladies. Dans la mesure où on est débarrassé de ces contraintes, c'est un prix très léger à payer.
Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Si les festivals prévus en juillet sont annulés, est-ce parce qu'on ne va pas s'en sortir de si tôt ? Alors, je ne sais pas qui veut répondre. Peut-être que c'est compliqué aussi d'organiser un festival à l'avance, sachant qu'on peut avoir des imprévus à la dernière minute et qu'il faudra tout annuler.
Ouais, quand on regarde l'événementiel, beaucoup de grands événements sont annulés jusqu'à l'hiver prochain, en réalité, parce que, en effet, c'est extrêmement compliqué d'organiser ce genre de choses, et donc vous avez beaucoup d'organisateurs qui ne veulent pas prendre le risque. Même si le risque est infime, même si tout le monde pense qu'en novembre, on en aura terminé grâce au vaccin, beaucoup ne veulent pas prendre ce risque. Une toute petite chose, il y avait quand même une expérimentation qui était prévue en France, qui consistait là à organiser un très grand concert avec des gens masqués à distance pour voir s'ils se contaminaient. Et là encore, on est toujours dans le précautionnisme à la française, c'est-à-dire que je crois que c'est Indochine, me semble-t-il, qui devait chanter, notamment. Et finalement, cette chose-là, qui était une excellente idée, ne va pas se faire parce que, bah justement, on a peur que les gens se contaminent, alors qu'il s'agit d'une expérience qui est très intéressante.
La recherche pour un traitement anti-Covid continue-t-elle, professeur Philippe Amouyal ?
Oui, bien sûr, il y a des essais qui sont actuellement en cours pour voir leur efficacité. L'idée, c'est vraiment que ces traitements subissent les expériences qui permettent de démontrer qu'ils sont efficaces. Comme n'importe quel médicament, même si c'est des médicaments qu'on connaît déjà, il faut démontrer qu'ils sont efficaces pour en tirer un bénéfice. Sinon, ça ne servira à rien. Donc, en effet, il y a des discussions sur ces traitements parce qu'on en aura besoin même par la suite.
Le gouvernement prépare-t-il un plan d'action pour le cas où un variant résistant au vaccin apparaîtrait ? Question de François à Paris. Donc visiblement, Emmanuel Macron envisage cette hypothèse d'un variant contre lequel nos vaccins seraient inefficaces, nos vaccins actuels. Philippe Amouyal.
Tout le monde l'imagine actuellement. C'est toute la réflexion de Moderna ou de Pfizer-BioNTech qui sont en train de réfléchir soit à des troisièmes injections avec les mêmes produits qui stimuleraient la production d'anticorps, soit dans ces troisièmes injections d'envisager de nouveaux designs pour pouvoir atteindre ces nouveaux variants. Donc ce n'est pas une stratégie, c'est la logique de ce qui va se passer par la suite une fois que tout le monde aura acquis cette immunité.
Géraldine Vosner, j'aimerais encore qu'on m'explique ce qu'on a gagné comme temps à ne pas avoir reconfiné plus tôt. Pourquoi Emmanuel Macron dit-il que si c'était à refaire, il le referait, pour dire simple.
Emmanuel Macron, il a pris en compte d'autres paramètres que les seuls paramètres hospitaliers et de santé. C'était les limites. C'est un choix. Il a pris en compte des données psychologiques, des données économiques, des données sociales. C'est un choix qu'il assume et qui, c'est vrai, aurait pu être différent. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné ? Bon, j'ai envie de dire, on ne saura pas, puis on le verra à la fin, finalement, si les la stratégie de vaccination décolle réellement et très très vite, on aura sans doute un jugement différent des semaines passées. C'est bien le problème d'ailleurs. Hein. Dans cette épidémie, on a une mémoire qui est très courte. On est très oublieux tous. Hein. Je parle vraiment collectivement de ce qu'on a pu dire ou penser simplement quelques semaines plus tôt. La vraie question maintenant est le vrai enjeu pour Emmanuel Macron, c'est de réussir cette vaccination. Et on voit bien que ça va être difficile, même jusqu'à l'OMS hein, qui tense l'Europe pour sa frilosité. On en parlait tout à l'heure, je pense que là où il a fait une erreur, mais qui est peut-être une faute, c'est dans la manière dont il a traité le cas du vaccin AstraZeneca. C'est-à-dire qu'il a fait le choix de suspendre la vaccination à partir d'une peur qui n'était pas fondée scientifiquement. L'OMS avait dit qu'il fallait poursuivre. Toutes les instances scientifiques et de santé disaient qu'il fallait poursuivre. Et là, il a pris une décision un peu irrationnelle pour pensant répondre à une inquiétude des Français. Et ça, on va le payer. Oui, en termes de défiance vaccinale, et j'espère que ce n'est pas ça qui bloquera au final l'effort de vaccination.
Professeur Amouyel, sans vaccination des moins de 18 ans, ne risque-t-on pas une nouvelle flambée des cas de contamination dès septembre ?
Oui, c'est une vraie question qui est à l'étude hein, dans différents pays, en particulier ceux qui sont le plus avancés actuellement en matière de vaccination. Pourquoi ? Parce que la circulation du virus, surtout si c'est un nouveau variant, sera beaucoup plus rapide dans les populations où il n'y aura pas eu d'immunité collective, donc en particulier chez les jeunes. Et puis ce niveau de vaccination de 80%, je pense qu'on aura énormément de mal à l'atteindre en ne vaccinant que des adultes.
Nicolas Bouzou, on revient sur les autotests. Pourquoi les Français ne seraient-ils pas capables d'utiliser correctement les autotests ? Je cite la phrase d'Olivier Véran dans Aujourd'hui en France. J'ai essayé et je peux vous assurer que ce n'est pas aussi simple qu'on l'imagine.
Oui, mais enfin, pour vous faire sourire, on aurait pu faire la même remarque avec les préservatifs. Hein. On peut aussi mal les mettre. Hein. Non, mais je veux dire, je crois que là, il y a quelque chose qui est très culturel avec l'État français. C'est cette idée selon laquelle il faut que tout soit processé, il faut que tout soit absolument sûr. Alors, pour vous faire encore plus peur, une idée qui était en débat, qui ne se fera pas, mais enfin, qui a été mise sur la table, c'était d'autoriser les Français à faire des autotests sous la supervision d'un pharmacien.
Oui,
là, on tombe en pleine absurdité, mais enfin,
fait par quelqu'un d'autre.
Voilà, c'est ça.
Connaît-on les performances du vaccin Johnson & Johnson ? Question de Marie en Haute-Savoie. Professeur Philippe Amouyel, donc celui qui n'a qu'une seule injection, hein, c'est son grand avantage.
Oui, tout à fait. Sa performance globale est 70%. Ah. Ils l'ont testé dans des populations américaines, sud-américaines et sud-africaines. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la population sud-africaine, où c'est massivement du variant sud-africain, son efficacité a atteint 56%. Donc c'est un vaccin qui a l'air extrêmement efficace et qui fonctionne sur une seule injection. Donc, et qui surtout, oui, l'autre point, c'est que ça, c'est sur la transmission, mais qui réduit de manière aussi extrêmement importante au bout de la cinquième ou sixième semaine les formes graves de l'ordre de 90%. Donc, c'est un excellent produit également.
Alors, Françoise Fressoz, une petite colle. Mes parents, plus de 80 ans, ils habitent à 20 km de chez moi. Ai-je le droit de leur rendre visite ? Question de Chris en Loire-Atlantique.
Ben moi, je renverrai, comme le président de la République, à la responsabilité individuelle, c'est-à-dire est-ce que les parents sont vaccinés ? Est-ce que les risques sont forts ? Si les risques sont forts, il ne faut pas y aller.
Est-on sûr que l'on peut rester contaminant même une fois vacciné ? Ou bien en est-on encore au stade de la précaution ? Question de Nala en Hauts-de-Seine. Professeur Philippe Amouyel, alors une fois qu'on est vacciné, est-ce qu'on est contaminant ?
C'est le principe de la protection contre la transmission. C'est la question qu'on s'est posée. C'est pour ça qu'on est au terme de précaution. Et les derniers résultats des études israéliennes montrent qu'en effet, avec le vaccin de chez Pfizer, on a une réduction de la transmission. C'est-à-dire que même si vous l'attrapez, probablement la production de vos virus est plus faible et diminue vos capacités de transmission et de contamination à un tiers. Donc on est sur la bonne voie de ce qui nous permettra réellement de sortir de cette crise.
Et quand on l'attrape, est-ce qu'on ne s'en rend pas compte ou est-ce que quand même on s'aperçoit qu'on est un petit peu grippé ? Le seul avantage est qu'on est sûr de ne pas faire une forme grave qui nous amènerait à l'hôpital.
J'ai rencontré quelques personnes comme ça qui se sont trouvées positives après avoir été vaccinées, en particulier au moment de traverser des frontières et elles n'avaient aucun symptôme. Enfin, toutes celles qui m'ont contacté n'avaient aucun symptôme dans ce contexte-là, et c'est bien l'objectif du vaccin. Il vous protège, mais à un moment, vous êtes bien infecté par le virus, et il faut l'éliminer. Donc, il y a une petite latence pendant laquelle vous pourriez peut-être être contagieux, mais apparemment, ce n'est pas le cas, il y a une protection de ce sens-là.
4 semaines suffiront-elles pour soulager le système hospitalier ? Question de Georges dans le Morbihan, puisqu'on fait ça en grande partie pour soulager le système hospitalier. Philippe Amouyel.
Au bout de 4 semaines, peut-être qu'on verra une diminution de la croissance des patients en réanimation, je dis bien peut-être. Le soulagement n'interviendra qu'un peu plus longtemps, probablement. Puisque si vraiment ça marche, il faudra avoir une baisse de 20 à 30% par semaine. Donc pour atteindre le seuil, il faudra 7 à 8 semaines, probablement.
Justement, ce sont les hôpitaux parisiens qui sont saturés. Françoise Fressos, finalement, quand Paris éternue, c'est toute la France qui en subit les conséquences. Question de Jean dans.
Oui, mais notamment parce que c'est le poids de la région parisienne aussi. Hein, c'est 30% de l'activité du pays, c'est une circulation intense. Et effectivement, quand le cœur est touché, au fond, ça irrigue un peu partout.
Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Je rappelle que C'est dans l'air est disponible en podcast audio sur toutes les plateformes. Vous restez sur France 5 à suivre C'est à vous. Et on se retrouve demain. Bonne journée.